Bonjour à tous, membres des médias. Lorsque j'ai reçu l'appel de Bob Gainey cette semaine, je n'ai pas hésité ni une ni deux. Il me fait plaisir aujourd'hui de revenir à la maison et d'accepter le poste d'entraîneur-chef du Canadien de Montréal pour une deuxième fois. Mais je ne reviens pas seul. J'aimerais vous présenter aujourd'hui mes entraîneurs adjoints, Patrick Roy et Mario Tremblay.
Ici Guy Carbonneau. Au menu de sport du binaire. C'est dur à dire, du sport binaire.
Ce soir, le Sportnographe dédie son émission à Guy Carbonneau. Et nous recevons pour l'occasion
Jean Perron, ancien coach de Canadien.
Pierre Trudel, ancien expert de Canadien.
Carl Camoni, ancien champion de mini-pot.
Et finalement, Jean Dion, actuel partisan du Nordique.
Oui, on avait envie de prendre une minute de silence pour notre ami Guy Carbonneau en ouvrant l'émission, mais nos patrons nous l'ont fortement déconseillé car il semble que ce ne soit pas très radiophonique.
Question de perception.
Ben oui, mais cela ne nous empêche pas de dédier l'émission à notre ami Guy. On perd la voix qui présente l'émission à chaque semaine, mais on perd également un homme à la cravate inspirante, un jongleur de trio hors du commun et surtout un excellent chiqueux de gomme.
C'est vrai.
Oui, bon, on a une émission pour vous ce soir et toute une.
Ben j'espère.
Oui, puis je me le permettre. Oui. Jean Perron sera des nôtres. Jean Perron pour discuter du Canadien, évidemment. On a aussi Gisèle Lamotte qui nous parle de patins de vitesse. Notre stagiaire Jacinthe qui est allée regarder le match de l'Impact la semaine dernière avec des vrais partisans. D'ailleurs, Biz de Locolocas, qui est un de ses partisans, vient nous voir pour nous parler de soccer. Et on a Yvan Piquette avec nous qui reçoit cette semaine un invité tout spécial.
Oui, cette semaine, je vous offre une entrevue exclusive avec le Potter de Carl Carmoni.
Bonjour, merci. Paul Meilleur qui n'a pas de questions plates cette semaine. Eh bien, une surprise pour nos auditeurs.
Ben oui, c'est qu'en raison du nombre de plaintes qu'on a reçues suite à la question sexiste qu'on vous posait la semaine dernière, on nous empêche cette semaine de tenir un sondage. Toutefois, en guise de travaux communautaires, on nous a imposé ceci. Vous offrir la chance à vous, auditeurs, de poser une question existentielle sur le sport. Question qu'on se chargera ensuite de poser à l'expert de notre choix ou encore à Michel Villeneuve si personne d'autre n'est disponible. On vous invite à enregistrer votre question et à nous l'envoyer par l'entremise de notre site internet au sportnographe.com dans la section réservée à cet effet ou simplement par courriel si vous êtes muet à sportnographe. @radio-canada.ca. Et là, c'est l'important de la chose. À chaque mois, l'auteur de la question la plus originale remportera un prix, comme par exemple la chance de venir bloguer avec nous, les amis, dans la salle des nouvelles du sport de Radio-Canada.
Tous les mois?
Oui.
Bon, ben on roule à la première chaîne.
Voilà.
Au Sportnographe disent souvent qu'ils ne comptent pas assez de buts au hockey. Donc, tu comprendras qu'au soccer, ils trouvent pas ça bien drôle. Puis en plus, le but, il est plus grand au soccer. Comment ça se fait?
Mais on n'a pas 35 tirs, mais dire qu'il n'y a pas assez de buts dans un sport, c'est comme dire qu'il n'y a pas assez d'orgasme dans le sexe. Si t'en as un, t'es content.
Ils me font rire, tes amis du Sportnographe, parce qu'ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de buts. Alors qu'au hockey, quand c'est 5 à 1, ils sont pas contents. C'est pas cool, c'est pas une bonne game, ça a pas bien été, c'était plate, le gardien est pas bon. Alors qu'une bonne game, c'est 2 à 1, 2-0, 3-1. Et là, on est à 2 à 1, le match est pas fini. Fait que ça va revenir là, à la même chose. Il faudrait juste qu'ils revoient leur standard un peu. Là.
C'était Jacinthe Simard qui essayait de comprendre le soccer.
Sportnographe Sport, c'est ici que ça se passe.
Vous savez, les amis, à quel point on est capable de se revirer sur un 10 sous, hein, ici au Sportnographe. La preuve, je vous avais préparé le week-end dernier un beau poème que je m'apprêtais à vous réciter qui s'intitulait « Carbonneau, un homme, un emploi, l'éternité
». Vous écoutez trop Jean-Charles Lajoie.
Oui, ben, en fait, c'est ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je me fie sur des poètes comme ça, comme Gainey lui-même qui disait que son meilleur coup, c'était Carbonneau, et comme Régent Tremblay qui titrait pas plus tard que samedi passé « Carbonneau fait son travail ». Qui aurait pu prédire que Régent Tremblay se serait trompé?
Pierre Lambert?
Oui, peut-être. Écoutez, j'aurais dû être plus à l'écoute de 110% là où est-ce qu'il y a les vrais connaisseurs, dont Richard Labbé, que je respecte énormément.
Un homme de foi.
Ben oui, et puis en plus, il me semblait qu'il avait été clair à 110% vendredi dernier quand on lui a demandé si l'arrivée de Bob Gainé derrière le banc était chose du possible.
C'est à peu près impossible, parce que souvent, quand ça arrive, dans le cas de Claude Julien, bon, c'était pas l'homme du gars qui était en haut. Mais là, Carbo est clairement l'homme de Bob Gainé.
Voilà.
On va voir ce qui va se passer, là, premièrement, parce que c'est certainement pas le temps de paniquer.
Comment un gars aussi sérieux que l'abbé aurait pu se tromper?
Ben, je vous demande.
Ben, c'est ça, c'est difficile à croire. J'aurais dû me fier à mon instinct, les gars, je vous l'avoue, et suivre les génies du monde du sport, comme Jean Pagé et Jean Perron, qui ont passé pour des fous lors de cette même soirée. On écoute.
Gainé descend où?
Derrière le banc.
Faire quoi?
Pour prendre la place de Carbo.
Tu rêves, toi, là.
Non, je rêve pas.
Tu m'as endormi, dis-moi. T'es dû des vacances. Non,
mais, c'est déjà dans un état normal, c'est ça qui devrait arriver.
Ben non, arrêtez ça, là.
Mais oui, c'est ça qui devrait arriver. Gainé...
C'est le même gars qui a dirigé l'équipe à 104 points l'an passé.
Et là, je pense que les gars ne répondent plus à Guy. Il y a quelque chose qui va se passer lundi.
Hein? Hey. Non, mais
on appelle ça de la prédiction.
C'était clair comme de l'eau de roche. Évidemment, quand on a appris la nouvelle lundi, ça tout le monde était sous le choc. Paul Meilleur a passé d'ailleurs la soirée dans les toilettes.
Ouais, je me rasais.
Mais oui, bon. Il n'empêche, la personne la plus troublée par ça, c'est évidemment Guy Carbonneau.
On l'espère.
Et la personne toute désignée pour expliquer, oui, à nous, mais aussi à Guy, qu'est-ce qui s'est exactement passé. C'est Jacques Demers, hein, qui lui-même est passé par là et qui parle à Guy directement.
Guy, voyons donc, quand ça commence à cacasser dans ton dos, les joueurs se le couvrent de le feu de l'anonymat, c'est quoi?
Le couvert de l'anonymat.
Merci beaucoup. Le disent à certains journalistes, le disent à d'autres personnes. Là, soudainement, ça vient gros, c'est une boule de neige, ça vient tellement gros que c'est impossible, la boule est tellement gros qu'on ne voit plus devant nous.
Le sacré feu de l'anonymat.
Oui, mais c'est ça qui se passe hein, quand on cacasse dans ce couvert de l'anonymat. Là.
On t'aime, Jacques.
Ben, Guy aurait dû l'écouter, Jacques, et bien avant, parce qu'il sait. Hein. Bon, je comprends qu'il y a des auditeurs qui ne comprennent pas tout ce que Jacques peut dire. Et il a d'ailleurs senti le besoin, Jacques Demers, d'imager son explication par une parabole. Appelons-la d'ailleurs la parabole du tuyau. On écoute.
Oui.
Ça, c'est quand tu prends un groupe de joueurs, là, puis un avion décolle, t'es assis à côté du moteur, puis tu te mets deux tubes dans les oreilles, là. Parce que ce que je veux dire, tu veux pas entendre le bruit du moteur qui décolle. L'entraîneur arrive dans la chambre, t'as 20 joueurs qui te regardent, ils sont tous mis des tuyaux presque, des choses pour pas entendre.
Vous voyez que ça peut faire en des tuyaux pour un moteur d'avion?
Ça sonne écho.
Très dangereux. Mais bon, ça sert à rien de se ressasser les dernières semaines dans notre tête à savoir quand ou comment Bob Gainé a pris sa décision. L'important, c'est de savoir si les vrais analystes pensent que c'est une bonne décision. On va écouter Jacques Demers. Et là, ça peut paraître être une suite de mots pas rapport ensemble, mais c'est vrai.
C'est ça.
C'est une bonne décision dans le contexte, la façon que l'équipe répondait à l'entraîneur-chef, qui était Guy Carbonneau. Cette équipe-là ne répondait plus à la demande exigée de l'entraîneur comment jouer. Les joueurs n'écoutaient plus ce que l'entraîneur voulait avoir.
C'est ça.
Clair comme l'eau de roche.
Voilà.
Bon, inquiétez-vous pas, hein, je vais quand même être capable, encore une fois, de me revirer sur un dissous la semaine prochaine. Je vous ferai un poème. Un poème, cette fois, qui va s'intituler « Le monde, selon Guy, ou comment perdre son vestiaire ».
Et être muni de deux bons tuyaux dedans les oreilles.
Exactement.
Oui, ici Normand Leblanc en direct de chez Apo Sport à Laval. Grande vente chez Apo Sport. Étui de canne à pêche, 19,99 $. Apo main libre pour chevreuil, 9,99 $. Odeur naturelle de femelle chevreuil en chaleur de qualité supérieure, 19,99 $. Et le dimanche, chez Apo Sport, c'est toujours 2 pour 1 sur les vers de terre. Alors ici Normand Leblanc qui vous dit...
Hey baby, you'll be so fast. Move it slow and shake your ass.
Alors, et vous, Jacinthe, où est-ce que vous comptez célébrer l'après-match?
Sur Facebook, ils disent que ça se passe chez Schwartz, avec des pickles jusqu'à ce que mort s'en suive. Je veux voir ça, mais j'aime pas les pickles.
Non, mais c'est pas grave. Tu caleras le vinaigre du bocal.
Et comme on peut l'entendre, hein? une soirée avec des partisans finis de l'Impact qui se termine de façon catastrophique, ça peut mener à des abus à tout le moins gastronomiques. Oui. On reçoit ce soir un de ces amateurs de soccer et non le moindre, Biz de Locolocas, qui est évidemment présent lors de cette soirée et qui offrait justement ses cornichons à notre jeune Jacinthe.
Oui.
Bonsoir, Biz.
Salut, messieurs.
Alors, vous êtes ici partisans de l'Impact, mais aussi partisans d'autres choses, j'ai l'impression.
Oui, oui, mais en fait, c'est que je sais que vous êtes des monogames convaincus en matière de partisanerie.
Oui, oui, c'est vrai.
Bon, moi, on n'aura pas à me convaincre aussi de la pertinence des Canadiens, mais ça va pas très bien ces temps-ci. Ben, et quand ça va pas bien... c'est ça, Bob est revenu, on est content. Mais quand c'est difficile dans ton couple, tu peux quand même aller faire un tour aux danseuses ou même aller voir ailleurs, histoire de rappeler à ta femme qu'il ne faut pas la prendre pour acquis.
Ça dépend du couple dans lequel on est dedans.
C'est ça.
Mais dans ce cas-là, moi, j'en ai profité pour aller voir l'Impact. D'ailleurs, au stade la première fois. Ah, et oui, ça, il faut dire que depuis la victoire des Expos contre les Braves en 94, je n'avais pas
vu de victoire,
buzzer. Ouais, ben, ouais. Non, il y avait eu le Monster Truck quand même. Ouais. Mais je n'avais pas trippé autant au stade depuis ce temps-là. C'était plein. Et le stade, quand c'est plein, là, à tous ceux qui songent à le démolir, là, c'est une mauvaise idée. C'est un emblème incroyable de Montréal. Il faut juste trouver le moyen de le remplir. Puis dans ce cas-là, la vague qui fait 10 fois de suite le tour du stade, avec, y compris au balcon, en haut de l'anneau, là, ça le fait. Là. Même les Mexicains en perdaient leur sombrero.
Mais on fait aussi la vague au Centre Bell.
Ouais, mais au stade, ça, c'est rond, fait que ça tourne mieux. Ouais. Au Centre Bell, elle se casse d'un coin à chaque fois.
C'est vrai que c'est ça qui est étonnant avec le Centre Bell, c'est que ça se casse. Hein?
C'est ça. Bon, fait que, il y a un brise-lame. En fait, dans le, dans le sang. Fait que donc, je suis allé là et parce que moi, disons-le, j'aime le hockey, mais j'aime aussi le soccer, le football américain aussi. Mm-hmm. Donc, je suis un peu, c'est ça, polygame. Là. Ça a l'air que c'est à côte ouest. Ouais, mais poly, vraiment, ça. Ouais, multi. Ça, dans l'ouest, ça a l'air que les Mormons peuvent, ou en tout cas, il y a une brèche dans la loi pour devenir polygame. Ouais. Donc, ça, éventuellement, ça va s'en venir ici. Donc, j'en profite pour dire aux gens, on peut sortir du Canadien sans mourir. En fait.
Mais à quel prix? À quel prix est-ce que le Canadien nous accepte de retour?
C'est-à-dire que ce que je pense qui peut se passer, c'est une nourriture mutuelle entre les deux cultures. Parce que c'est vraiment deux cultures. Puis à Montréal, on en a eu l'occasion. On sait que sociologiquement, on est une résultante de l'Europe et de l'Amérique. Ouais. Mm-hmm. Puis dans l'appréciation qu'on a du soccer ou du foot, en fait, ça se comprend parfaitement parce que au stade, on a importé le nanana et goodbye, la vague, le ohé ohé.
Ouais.
Donc, les Mexicains étaient un peu déstabilisés.
Est-ce qu'on a brûlé des voitures aussi? Parce que c'est souvent ça, la façon de célébrer.
Oui, parce que... Mais ceci dit, on pense qu'on est au poste à Montréal en matière d'émeute, mais il faut aller voir les matchs de Manchester, de Liverpool ou en Croatie. Ou en Pologne.
On a beaucoup à apprendre.
Ben, de ce côté-là, parce que là c'est carrément, ils doivent isoler les spectateurs dans des sections séparées.
Ah, mon Dieu.
Alors qu'ici, on a un monsieur avec un chandail de Boston, tout ce qu'on trouve à y dire, c'est « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Pas fin, tu sais. » Alors qu'à Manchester, si t'es de l'autre côté, t'en sors pas vivant, carrément. Tu sais,
c'est la guerre.
Ben, en tout cas, je dis pas qu'il faut importer toutes les pratiques, mais on peut en partager certaines. Notamment la diversité des chants. Des partisans. Parce que au hockey, surtout nous avec les Canadiens, on a malheureusement tendance à féliciter nos gars quand ça va bien, quand ils ont monté un but.
Ouais,
mais un partisan, ça sert pas à féliciter, ça sert à encourager, à soutenir.
Même quand ça va mal?
Bien évidemment. C'est ça le but de jouer à domicile.
Ouais. À être un acteur, finalement. Vraiment
être un spectateur.
Okay.
Donc, il faut être dans le coup, carrément. Sinon, on est un meuble puis on regarde le hockey à télé. T'sais. Donc, il faut le septième joueur, il faut qu'il soit. Il faut pas juste qu'il dise chou quand ça va mal. Puis, en fait, au foot, comment ça marche? C'est que tu as à l'intérieur des partisans, donc tu as des clubs de partisans plus, en fait.
Des malades mentaux.
Ben là, ça, c'est ton jugement. Mais disons, des enragés, de l'équipe. Puis d'ailleurs, dans l'Impact, la section qu'ils ont, ils s'appellent les ultras. Il y a tous des superlatifs, ultra, trop, plus, tellement.
Exagéré.
Puis à Marseille, dans chaque virage, donc dans chaque courbe du stade, il y a une section. Donc, il faut imaginer que ces sections-là sont des clubs, des organisations, des OSBL, avec leur chant, leur slogan, leur chandail, leur logo, qui se font concurrence entre eux, donc au sein même de la même équipe. Donc, à Montréal, on n'est pas encore rendu là. On a une section, donc qui s'appelle les Ultras. Uh-huh. Et moi, j'ai souvenir de les avoir vus au Centre Claude Robillard, sous la pluie, complètement seuls dans leur section, isolés, à entonner des chants qui résonnaient un peu dans le vide. Et là, c'était leur douce revanche. Ils menaient le jeu, ils étaient derrière le marbre, ils avaient les meilleures places. Il y avait des feux d'artifice. On n'est pas au Centre Bell avec les téléphones cellulaires.
Parce qu'en même temps, les feux d'artifice, ça ferait fondre la glace.
Oui, c'est ça. Il faut quand même rester conscient d'où on est.
Parlant de conscience, vous avez conscience encore de vos Canadiens. On a appris que vous composiez une chanson pour améliorer l'équipe, hein, parce qu'il faut le dire, c'est-à-dire on a besoin d'encouragement. Là.
Il paraît-il que vous attendez le momentum, mais
le bon moment. Il ne
viendra jamais.
Oui, bien là, à ce moment-là, ben, il ne viendra jamais. D'une chose, une chose qui est sûre, ce qui est venu puis ce qui va venir, c'est le centenaire de l'équipe.
Oui, oui.
Ça, déjà, ça se célèbre, ça se remet.
Donc, cette chanson-là, on va l'entendre bientôt?
Bien, elle va être sur le prochain disque, donc en septembre. Okay. Maintenant, quand est-ce qu'on va la lancer? Ça, c'est une autre affaire. Elle était prête depuis les séries l'année passée avec les Flyers. On attendait, là, on suivait avec les Flyers. S'ils sortaient les Flyers, on la sortait.
Ah, ben ouais.
Donc, elle est prête, elle est masterisée. Mais c'est ça, faut savoir.
Le bon moment.
La conjoncture est très, importante.
Donc, je retiendrai qu'une chose, les Flyers m'ont empêché d'apprécier mon loco-locasse canadien.
Oui. Ben, c'est une chanson qui est sur le hockey, mais aussi sur les Canadiens, mais aussi sur le hockey. Et il y a des métaphores de victoire collective pour les Québécois là-dedans.
Ben, Monsieur Biz.
Oui. Monsieur.
Monsieur Biz.
Biz.
On vous remercie.
Ça me fait plaisir, messieurs.
Les grands moments du hockey. Cette semaine, au grand moment du hockey, les meilleures faillites de concessions. Dissoudre son équipe de hockey avant la fin d'une saison s'avère toujours d'une grande élégance. Citons d'abord le cas des Poutrelles Delta de Sainte-Marie, une concession de la Ligue nord-américaine de hockey, décédée le 23 janvier dernier. Dans une lettre d'explication, le propriétaire des Feux Poutrelles Delta déclare avoir tout fait pour ramener le public à l'aréna, notamment en engageant un trompettiste. Mais il y a mieux que les Poutrelles Delta. En 1976, dans la North American Hockey League, une équipe au nom très recherché, les Cape Codders de Cape Cod, stoppe ses activités après 52 matchs. Malheureusement, les 22 derniers matchs du calendrier ne suffisent pas aux Nordiques du Maine pour rattraper les Cape Codders au classement, faisant de ces derniers la première équipe en faillite à se qualifier pour les séries. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre grand moment du hockey!
Alors, le Poutrelles Delta est fier d'avoir mis sous contrat 6 nouveaux joueurs.
C'est éphémère dans le temps, mais quand même.
30 fréquences secondes avec Pierre Trudel. Une présentation de Spornographe avec un T.
Il ne le sait pas encore, mais il est un peu notre Guy Carbonneau à nous. Accueillons Pierre Trudel pour une de ses dernières chroniques au Spornographe. Pierre, bonsoir.
Ça fait plaisir. Je deviens Carbonneau aussitôt que j'ai fini, quoi.
Écoutez, on a une réunion dans notre bureau plus tard.
D'accord, c'est ça. C'est typique du monde du sport. Vous convenez, c'est lui qui n'est pas responsable.
Bon, cette semaine, vous nous parlez de quoi, M. Trudel?
Des misérables. C'est le jeu de mots, misérable.
Oui, oui, on l'avait compris.
Ce qui a déclenché tout ça cette semaine, finalement, c'est que, rendons à César, hein, c'est un texte qui est paru dans spornographe.com qui a été signé par le philosophe Paul Meyer d'Aucoin.
Ah, ouais. Bien,
qui disait
bien.
Qu'en mangeant ses rôtis et en pensant aux Canadiens, il s'était dit plutocratie.
Oui. Ouais.
Moi, en mangeant mes rôtis et en les lisant, je me suis dit de casser.
C'est un peu ce qu'on se dit aussi à chaque jour.
Puis à la fin, il proposait un coach académie. Ça serait la seule télé-réalité où tout le monde serait expulsé un jour ou l'autre.
Tout le monde est balloté. Un jour.
Tout le monde dort. Et quant au paragraphe qui précède, à un moment donné dans son texte, aussitôt, vous aurez tout compris, j'en reparle. J'ai bien de la misère.
C'est vrai que c'est un texte complexe.
Mais... m'en veux des toasts avant de comprendre.
L'important, c'est ce que je mets sur mes toasts. C'est là que ça
oui,
se passe.
Oui, hein, ça t'en a beurré. Ben là, je peux dire ça.
Pour une prochaine chronique meilleure.
Oui, okay. C'est ça. Écoute, Carbonneau, on va résumer un petit peu. Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans que je parle de sport, que je fais semblant que je connais ça, puis j'en parle.
Ça paraît bien.
Ça indique à quel point ceux qui m'écoutent connaissent le sport. Attention, les gars. J'ai connu 13 entraîneurs-chefs du Canadien, puis 5 directeurs-gérants. 13 entraîneurs-chefs, souvent convoyés par un directeur-gérant, qui disait vouloir relancer l'équipe, alors qu'en réalité, ce qu'il visait surtout, c'est de sauver sa propre job. Et 13 entraîneurs-chefs, dont les joueurs ont ensuite déploré le départ, bien sûr, sont dit peinés, et ils ont utilisé tous les clichés qui ont déjà appris par cœur, les clichés d'usage, n'est-ce pas, dans les circonstances. Alors, le monde d'hockey, je vous le dis, les gars, c'est un monde de Pinocchio.
Oh, de
monde du sport même, de menteurs, de bébés gâtés, puis de toujours affaires, finalement.
Ah ouais, ouais. Hein?
Non, moi, t'as pas l'air
convaincu. Moi, c'est toutes sortes d'affaires qui m'intéressent, mais si vous en restez là,
ça pour un autre chronique. Okay, il y a deux côtés de la médaille. Carbonneau, c'est vrai que c'était pas un grand communicateur avec les joueurs. comme a dit Sakou Koivu, qui lui-même est aussi un grand communicateur avec tous les fans francophones de l'équipe. Alors voilà, c'est pas un très grand leader, Koivu, et qui en est, lui, à son 7e coach en 11 ans. Je veux rien insinuer, mais
vous
savez que c'est pas mon genre.
Non, c'est pas votre genre. De toute façon, ça, vous avez remarqué, on n'a même pas amené de sonnette aujourd'hui.
Non.
On avait tellement confiance.
C'est vrai, oui. Ben, vous faites bien, il était temps. Et puis vous me mettez dehors. Ça,
c'était pour la dernière.
Ça va bien, oui. Alors, Carbo, où il y avait ses défauts, comme tous les gars, il y avait, à un moment donné, il y avait des innombrables changements de trio qui nous mêlaient un peu. On ne savait plus qui jouait avec qui, si c'était sur le 6e ou 7e trio, qui envoyait dans des situations en fin de match. C'est sa capacité à s'adapter à des situations de jeu derrière un banc qui, sérieusement, je dis ça sérieusement, c'est peut-être ça qui était sa principale lacune, mais c'est, à un moment donné, c'est l'expérience qui serait rentrée avec le temps. T'sais. Quant à Gainé, ben lui, il faudrait peut-être que, si jamais ça ne va pas, dresser un bilan de son plan quinquennal. Alors, quand on regarde un peu ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, on va dire une chose, c'est que c'était rien pour aider Carbonneau, c'était rien pour sauver la job de son ami. Alors, si le Canadien ne fait pas une série, il va falloir un grand ménage chez les hommes de hockey. Puis l'avenir, ben, il me fait peur un peu. Vous regardez derrière le banc, il n'y a aucun francophone. Mm-hmm. Il y a un éteignoir qui s'appelle Jarvis. Il y a un ambitieux qui s'appelle Muller. Il y a Gainé qui nous amène Don Lever, qui prépare, j'en serais pas surpris, l'arrivée d'un coach incapable de s'exprimer en français. Ce que je n'accepterai que le jour où un coach unilingue anglais, français, dirigera les Maple Leafs de Toronto avec l'approbation de Don Cherry.
Mais moi, je vous le dis ici, là, vous l'aurez entendu, ce sera Robert Hartley. Ça, je suis certain.
C'est le candidat qui répond le plus.
Oui, mais je sais que tout le monde dit ça,
vous,
mais
c'est... Vous voulez continuer votre discussion plus tard?
Oui, plus tard.
Oui, OK, pas de problème, mais je vous remercie en attendant. Merci, messieurs.
Il fallait qu'il y ait du monde qui nous écoutait.
Chapeau, Chapu!
Oui, salut! Ben oui, hey, vous avez eu la nouvelle? Carbo a été remercié. Mais tu sais, j'ai jamais vu un gars manger un coup de pied au cul, puis reculer. Il avance toujours au moins de 2 pieds, puis il est 2 pieds en avant du gars qui a fessé. Sac à la fesse, Carbo, décourage-toi pas, il en cherche partout. Il cherche des entraîneurs partout. Mais il y a peut-être une chose que je ferais à ta place. J'irais rencontrer chacun des joueurs. Puis je leur poserais des questions, comme par exemple, à Sakou Kaivu, je demandais, tu parles de communication. Je suis pas bon en communication. Tu penses que je parle mal anglais? Peut-être faut que je l'apprenne. Puis ensuite, j'irai voir Kovalev et je dirais, tu m'as fait la baboune pendant des semaines. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai-tu blessé? Pauvre petit pite. Dis-moi qu'est-ce qui te blesse. Parce qu'il me semble ridicule d'avoir 25 joueurs adultes qui font des millions par année, puis ils pleurent. Ça leur fait mal. Ils communiquent mal. Sac à la fesse. Le cœur au ventre, c'est ça qui fait qu'on gagne.
Chapeau, Chapu.
Capsule linguistique avec René Potier.
Dans le monde magnifique des médias sportifs, il peut arriver que les propos se déforment entre le moment où ils sont imaginés et celui où ils sont exprimés. Par exemple, un analyste peut vouloir dire « Ce joueur est-il déçu par le déroulement des événements? Il y a anguille sous roche et il conviendrait de faire enquête. » En revanche, il s'exprimera plutôt ainsi. Est-ce que c'est un joueur qui n'est pas content de la manière que les situations roulent? Il y a enquête sous roche, il y a une grosse enquête à faire ceci. Heureusement, l'amateur de sport n'y verra que du feu et attendra la publication du rapport en mangeant des croustilles.
Est-ce que c'est un joueur qui est pas content de la manière que les situations roulent? Est-ce que c'est un ami d'Al Strachan? Ah, il y a enquête sur Roche, une grosse enquête à faire ceci.
Mesdames, messieurs, si la tendance à la bagarre semble s'estomper dans la grosse Ligue nationale, l'engouement pour la boxe n'a pas l'air de s'éteindre. Ouais. Ce soir au Centre Bell, téléphone, c'est le retour sur le ring de Lucien Bouté qui fera son entrée glorieuse sous les projecteurs, enveloppé de sa robe de chambre brodée d'or, pour défendre son titre devant l'inimitable Zuniga.
Quelque chose de même.
Pour l'occasion, j'ai cru bon de poser une question fondamentale à mes deux débatteurs. Pour ou contre le port de la robe de chambre chez les boxeurs professionnels? Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Yvan Piquette, vous êtes contre?
Je suis contre. Go. Contre la peine de mort et le port de la robe de chambre chez le boxeur moderne parce que c'est d'enlever toute sa pertinence à ce noble vêtement. De nos jours, le peignoir sert principalement à essuyer la goutte de beurre de pinotte que vous avez sur le bord de la bouche en passant, Munger. Et non pas à se pavaner devant 10 000 spectateurs. La robe de chambre, c'est certainement pas ce qu'il y a de plus approprié pour émoustiller les fans en délire. Non! Tant qu'à porter la robe, aussi bien rester en petite culotte ou encore mieux s'habiller un lutteur professionnel. Wow. Luciano Butte vêtu d'un boa constrictor de 300 livres ou N'Goudjo avec une chaîne de bicycle dans le cou et du faux sang qui sort des oreilles. Voilà qui pourrait remplir un stade olympique. Mais surtout, le peignoir est l'antithèse de la virilité, oui, mais aussi de la détermination. Car quel exemple est-ce que ça donne un gars qui entre sur un ring en donnant déjà l'impression qu'il ira se coucher au premier round? Ben, c'est ça.
Piquette, merci. Meilleur, vous êtes contre?
Pour... Réal, Yvan, monsieur le vicomte, je me présente devant vous ce soir outré. Outré que l'on ose mettre en doute la valeur de la robe de chambre dans l'univers tout entier, mais particulièrement chez le boxeur. N'est-ce pas là, monsieur le juge, le vêtement d'apparat le plus à même de représenter la complexité du combat dans toute sa passion? Facile à retirer afin de dévoiler la musculature quand le combat commence. Facile à remettre pour se couvrir de gloire après la victoire. Pourriez-vous me nommer un seul autre atout avec les manches suffisamment lousses, Piquette, pour laisser passer des grandes boxes?
Un boa constricteur?
Évidemment, pour vous convaincre, je pourrais citer Rimbaud qui disait « Tu plongeras dans la luzerne, ton blanc peignoir, rosant à l'air ce bleu qui cerne, ton grand œil noir. » Mais non, je vous laisserai une chance, Piquette, dans ce combat inégal et terminerai en disant ceci. N'y a-t-il rien de plus délicieux qu'une femme en robe de chambre? Mon point me semble clair, votre honneur. Mon point me semble clair, votre honneur.
Alors, malgré son côté pervers, je déclare meilleur vainqueur.
Merci, merci, merci.
Comment on feint une blessure au soccer?
Le plongeon est important, mais il est important au moment opportun aussi. Mais il y a une façon de croiser les jambes. Pour vraiment démontrer qu'on a perdu l'équilibre de façon spontanée, aléatoire. Là. Il y a vraiment un jeu de comédien là-dedans. Parce que les joueurs de hockey, même s'ils se cassent la jambe, ils vont rentrer au banc en patinant, tomber sur la glace, ne pas se relever, c'est inadmissible au hockey. Ça devient même un problème. Des fois, il y a des joueurs qui ont des commotions cérébrales qui patinent jusqu'au banc alors qu'ils pourraient très bien s'étendre sur la glace. Ça serait tout à fait raisonnable. Donc, c'est vraiment un sport de guerrier. Au soccer, c'est pas que c'est pas des guerriers, mais il s'est implanté cette stratégie de feinter des blessures pour avoir des cartons, des coups francs, des tirs de pénalité. En tout cas, j'espère que ça va tendre à disparaître avec le temps.
Cette période est une présentation des assurances Ressort. Les assurances Ressort, placement conseil, c'est ça, c'est sûr, c'est ça.
Il fait parler les chiffres tels le comptable de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est Jean Dion et la semaine numérotée. Monsieur le magicien Dion, bonsoir.
On vous fait plaisir, là.
Excusez-moi.
C'est notre publicité
de
Ressort.
Oui, la publicité de Ressort, ça vient me chercher.
Vous la gravez sur CD, si vous voulez.
Oui, bien, je pourrais me l'écouter
en boucle.
En boucle.
Alors, on vous écoute.
Est-ce que je peux d'abord partager une autre tranche de vie avec vous?
Allez-y.
C'est comme
vous voulez.
C'est que quand j'étais petit...
Encore?
Ça commence toujours comme ça.
Ben, c'est-à-dire avant d'être gros, là. Mais, non, quand j'étais très, très petit, mais vraiment très petit,
oui.
Je pensais qu'au hockey... Les équipes marquaient dans le but défendu par leur propre gardien.
Ah, c'est spécial.
Et je me demandais pourquoi le gardien en laisse pas rentrer plus.
Ben oui, c'est niaiseux, comme ça pourrait finir 27.
Et à un moment donné, j'ai eu un flash et j'ai compris.
Ça, c'est à quel âge, ça? 17, 18?
Ah, ouais, dans le temps où j'ai commencé à prendre pour Nordique.
J'aurais pas aimé ça être votre ami dans votre jeunesse.
J'étais. Bon. Je vous en compterai d'autres la semaine prochaine.
OK, OK.
Vous ferez ça.
Alors, les numéros de la semaine.
S'il vous plaît.
Tout d'abord, 26 325. Oh, ben, comme vous le savez.
Oui, ça sonne spectateur, mais bon.
Comme vous le savez. Vous le savez probablement pas parce que vous vous intéressez juste à Canadiens.
C'est vrai.
Mais les Yankees de New York, au baseball, vont emménager dans un nouvel amphithéâtre. Mm-hmm. Ce printemps,
mm-hmm.
qui est situé juste l'autre côté de la rue de l'ancien, dans le Bronx. Or, le billet de saison le plus cher, c'est-à-dire le meilleur siège en la place,
non.
coûte 26 325
ben, ça sonne crise dollars. Économique pas mal. Ça.
Ouais, ce qui fait à peu près un peu plus de 3000 $ par match.
Ça vaut la peine.
Alors, fois 1000 baseball. Hein.
3300 $ par match, parce que 3000...
De toute façon, les Yankees ont demandé quelques millions à la ville de New York pour les aider, parce qu'ils ont des... ils ont des problèmes.
Et M. Bloomberg va lui passer...
On a hâte de voir ce qui va se produire avec ça, mais pensez-y, 26 325.
Oui, c'est déjà dans mes économies.
92...
92.
Ouh. Alors, selon des calculs...
Il ne laisse même pas le temps de répondre.
Ben non, c'est ça.
Ben, allez-y.
Non, je n'avais pas de réponse.
Idée.
C'est parce que 92 est un chiffre hypothétique, mais probable. Parce que, selon des calculs que j'ai effectués sur ma calculatrice au laser liquide, lorsque Sekou Koivu va prendre sa retraite, 92 entraîneurs-chefs se seront succédés derrière le banc de Canadiens.
Et combien de Coupes Stanley?
Zéro.
C'était le troisième chiffre. Merci, Jean.
Ouais, ben non, ce serait la 15e saison où les Canadiens n'arriveraient pas à se rendre en demi-finale.
Ah oui, c'est vrai.
Même pas en finale, en demi-finale, depuis qu'il a remporté la Stanley. En quelle année?
92-93.
Ouais. Ben, vous étiez jeune, vous autres. Hein?
Oui, moi, je l'ai écouté dans le sous-sol.
Vous n'avez pas des tranches de vie de vous quand vous étiez petit?
On vous contera ça la semaine prochaine, peut-être.
Moi, quand j'étais petit, je pensais que le Canadien avait gagné la Coupe Stanley en 87 aussi. Mais j'ai appris plus tard que c'était seulement en 86.
Mais moi, quand j'étais petit, j'apprenais, et c'est là ma passion pour les chiffres, j'apprenais le calendrier par cœur. je savais. Vous me demandiez, par exemple, j'avais un calendrier perpétuel, vous me demandiez, je ne sais pas moi, le 18 mars 1995, je disais, c'est un mardi ou c'est un. Mais vous savez qu'au fond, un calendrier, c'est juste un carré aux dates. Hein?
Ouais. C'est bon.
Et enfin, le dernier chiffre, c'est 1 comme dans une maudite bonne raison. C'est Sean Rogers, le plaqueur défensif des Browns de Cleveland, qui a demandé à être échangé parce que Eric Mangini, le nouvel entraîneur des Browns, lui a pas dit allô à son arrivée au camp d'entraînement. Wow. C'est ce qu'on appelle un problème de...
communication.
Ah, voyez-vous le lien, là? Voyez-vous le lien, là?
Vous êtes un professionnel.
Mais une chance, nous autres, on communique bien ensemble.
Oui. M. Dion, avant de se quitter, j'aurais une question pour vous.
Oui.
6 mars 1973.
6 mars, c'est l'anniversaire de mon père, en passant. 73.
OK, restez pas. Merci.
6 mars 73.
Merci, M. Dion.
Lecture de l'Évangile selon Bob au chapitre 13, les versets 10 à 17 et 53 à 58 par le Père Marie-Maurice. Les joueurs s'approchant de Guy lui dirent « Pourquoi ne fais-tu pas de miracle ?» C'est que, répondit-il, à vous, il n'a pas été donné de connaître les mystères du hockey. Votre esprit s'est épaissi, vous vous êtes bouché les oreilles, vous avez fermé les yeux de peur que vos yeux ne voient, que vos oreilles n'entendent, que votre esprit ne comprenne, que vous croyez en moi et que je vous offre la Coupe Stanley. En vérité, je vous le dis, beaucoup de joueurs et de journalistes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et ces joueurs étaient choqués à son sujet, mais Guy leur dit, un prophète est toujours méprisé dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas de miracle au Centre Bell à cause de leur manque de foi. Saint Patrick est avec vous et ses poteaux sont avec lui.
Carmoni.
Pour Carmoni! Absolument incroyable!
Que dire de plus?
Incroyable. Après avoir fait 3 fois le tour de tous les internets, c'est à un as de l'aviation militaire que l'amiral Piquet s'attaque ce soir à un sujet chaud de l'actualité sportive. Le mini-pot, sport ou non-sport?
Très bonne question, Manjer.
Merci.
Oui, ce soir, je vous entretiendrai de golf miniature. C'est que vous le savez sans doute, c'est le sujet de la semaine qui a éclipsé tous les autres. Suite à un jugement d'un tribunal compétent, le mini-pot est officiellement un sport au même titre que les quilles et la motoneige sur l'eau.
Bonne affaire.
Ben oui, c'est une bonne affaire.
En effet, après une bataille juridique qui aura duré 1 an et demi, Joseph Zunenschein, propriétaire d'un terrain de mini-pot décoré de couleurs fluorescentes et éclairé de lampes ultraviolettes dans la région de Laval, pourra servir de la boisson dans son établissement désormais sportif.
Bon, belle réussite.
Vous vous disiez peut-être que l'entrepreneur en question poursuivait le noble idéal de rendre justice à ces athlètes que sont les mini-golfeurs, mais non. L'objectif était plutôt de permettre aux Lavallois de s'adonner à la pratique du mini-golf en état d'ivresse avancée, histoire de complexifier l'exercice ou simplement de rendre la chose moins plate.
Une bonne chose.
Oui. Monsieur Zunenschein, et d'ailleurs, on va commencer à l'appeler Zun parce que c'est plus simple.
Ben oui,
donc, Zun offrira de la bière et du vin dans son établissement. Alors, après une partie chaudement disputée, vous pourrez désormais vous désaltérer avec un bon Bordeaux 94.
Sacré Zun.
Sacré Zun.
Hein? Tout un Zun.
J'ai demandé à Carl Carmoni, maître incontesté de cette discipline et ancienne vedette de la très populaire émission Défi Mini-Pot, diffusée dans les années 90 sur un réseau des sports, en quoi le mini-pot était un sport.
C'est un sport parce qu'il répond aux trois caractéristiques du dictionnaire qui est, un, l'enjeu, le but et la compétition. Le deuxième point, ça demande un certain effort physique ou d'habileté ou de coordination. On les a les trois là-dedans. Et ça demande de l'entraînement. Si vous ne savez pas, le mini-pot, là, nous autres, on pratique un 20 heures semaine en sous-sol l'hiver et un 20 heures semaine sous le terrain l'été pour être compétitif. Donc, c'est un sport.
ça me fait penser à Sidney Crosby qui se pratiquait dans le sous-sol.
En se lampant sur la laveuse à un moment.
Et d'ailleurs, pour être sûr que tout le monde comprenne, moi le premier, je lui ai demandé s'il y avait des ressemblances entre le mini-pot et le hockey.
Ben, disons, entre le mini-pot et le hockey, les deux, c'est un sport, un plus agressif que l'autre. Malgré que le hockey, je te pourrais me demander si c'est un sport, parce que la game, elle joue plus sur la glace, là, elle joue au repêchage. Fait que je te pourrais me demander si le hockey, c'est un sport présentement.
C'est dur à entendre, hein?
Lequel des deux est le plus violent, le hockey et le mini-pot? J'ai pas...
Un coup de putter sur la tête.
Ben, ça c'est mal. Ça que je me dis.
En effet. Mais il y a quand même certaines personnes qui vouent un culte à l'émission Défi Mini-Pot, disons au moins 170 membres du groupe Facebook qui a demandé le retour de l'émission. Et je connais même une personne un peu pas bien dans sa tête, appelons-la Émile Girard de Fanatique.ca, qui est allé jusqu'à acheter le putter de Carl Carmoni sur un populaire site d'enchères, appelons-le eBay. J'ai demandé à Émile combien il a payé pour ça et surtout, pourquoi il a payé pour ça?
Bonne question.
J'ai payé le bâton de golf 160$, puis je me disais qu'à l'époque où j'anticipais la crise financière qui nous a frappé, que c'était une bonne valeur refuge, un petit peu moins cher que l'or.
Ça me semble assez judicieux.
Oui, c'est spécial, par contre.
Maintenant, je vous entends déjà téléphoner à votre conseiller financier pour qu'il vous achète des actions d'RDS en vue d'un éventuel retour l'émission des films Mini-Pot. Mais attendez au moins que le groupe Facebook soit rendu à 300 membres, disons. C'est mon suggestion.
C'est votre suggestion.
C'est ton suggestion.
Voilà. C'est votre suggestion. Okay.
D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur le Mini-Pot, visitez le site mini-pot.net de M. Carmoni. Et j'aimerais terminer en vous disant que, oui, le sport du mini-pot est né dans l'alcool, mais au fond, les succès d'un sport ne sont pas tributaires de leur venue au monde. Après tout, le hockey est né grâce à des pommes de route gelées sur un lac glacé. La course automobile est arrivée grâce à un gars avec une calotte rouge qui a foncé dans un arbre. Et le baseball est venu au monde parce que quelqu'un avait vraiment, vraiment rien à faire.
Monsieur Piquet, je vous remercie. Est-ce qu'on peut aller visiter le Potter de Carl Carmoni dans un musée quelconque?
Il est sur Facebook.
Merci.
Oui, oui. Bonsoir. Alors, vous me prenez en pleine course. Ce soir, à ma canne tribu, si je me rends, les Bahaïs Fraternité Foi Féministe, un reportage Catherine Pépin. À Sherbrooke, l'équipe brésilienne de curling brise la glace. Ça devrait vous intéresser, ça. Reportage André Martineau. C'est moins essoufflant que patiner. Appuyez les femmes de Birmanie. Envoyez vos petites culottes pour la paix. Plus de détails, j'en doute pas, vous en voulez. Avec Mika Lévesque de Droits et Démocratie. Les mots migrateurs quand le français se glisse dans les autres langues. L'entrevue avec Marie Krebs, c'est une linguiste. Et un tas d'autres choses. Excusez-moi, mais là, je suis plus là-bas. Je suis en train de perdre la course en plus de ça. Bon, ben, au revoir.
À chaque mois, notre collègue Gisèle Lamotte vient nous présenter ce qui se fait de mieux sur la glace, à part bien évidemment notre sacro-saint hockey. Après le ballon-ballet et le patinage artistique, notre bonne amie Gisèle s'attaque au patin de vitesse. Bonsoir Gisèle.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et pourquoi le patin de vitesse?
D'abord parce qu'on est bon et que ces temps-ci, c'est agréable d'être bon à quelque chose. Pendant que le Canadien nous fait vivre des émotions en montagne russe et que nous pensons nos plaies d'autres défaites de balles à Toronto et de ballons au Mexique. Oui, on est bon en patin de vitesse, mais vous me direz en quoi ça consiste? Ou juste le patin de vitesse.
Aucune idée.
Et si on parle de la base, là, c'est de patiner vite. Et là, je ne recommencerai pas l'histoire du patin, puisque vous l'avez bien retenu lors de ma dernière chronique. Village, rivière gelée, hollandais, arrivée du métal.
Ça. Exact.
Au Canada, la première compétition de patinage sur glace a eu lieu sur le fleuve Saint-Laurent. Et là, c'était de la très longue piste en 1854. Et il y a trois officiers de l'armée britannique qui ont eu la drôle d'idée de faire cette course entre Montréal et Québec. C'était une espèce de Red Bull Crash Test. 19e siècle.
C'est le début de la rivalité Québec-Montréal, déjà.
Chez les femmes, c'est arrivé aux Jeux olympiques en 1960. Et je sais pas si c'est un hasard ou s'il y en a qui se trouvaient drôle, mais c'était à Squaw Valley.
Bon, mais vous savez, on est un peu mêlés aujourd'hui avec le patin de vitesse parce que je sais personnellement qu'il y a du courte-piste et du longue-piste.
Oui, bon, le courte-piste est arrivé plus tard. On dit que c'est un peu plus excitant. Les départs se font en groupe. Il y a des dépassements serrés, des chutes. D'ailleurs, hein, pas tout le temps. On coussine soyeusement le tour de la patinoire. Et là, je voulais vous faire une petite démonstration, messieurs. Vous avez vu mon costume.
Très beau, d'ailleurs.
Vous avez remarqué mes patins à très, très longue lame.
Oui,
ici.
Mon Dieu, le beau plancher de bois.
Voilà. Je me suis aussi rembourré les cuisses parce que c'est important pour une championne d'avoir de très bonnes cuisses. Vous aurez aussi remarqué ma combinaison cagoule. Et ça, c'est pour l'aérodynamisme.
Et c'est nécessaire, ça, oui.
Oui, oui. Okay. Voilà. Vous voyez mes bras ici?
Oui, fais attention à Piette, là.
Oui, exactement. Alors, ça, bon...
Ce mouvement-là, j'imagine que c'est pour aller plus vite aussi.
C'est ça. Okay. On tourne, on peut appuyer la main comme ça au sol. Ah. Et pour aller plus vite en ligne droite, on peut ici placer les poignets derrière le dos.
Bon, ben, je vous remercie, Gisèle. Écoutez, revenez vous asseoir parce que, écoutez, des patineurs, on en a connu des célèbres ici au Canada et au Québec.
Je vous propose d'ailleurs un petit jeu. Reconnaissez vos grands patineurs grâce à un extrait sonore. Wow. Pour le premier, vous allez voir, là, il y a un gros indice.
Je pense que toute l'équipe des sports de Radio-Canada voudrait souligner tes exploits, Gaétan, en te permettant de sabler le champagne avec nous à la caméra. C'est pour ouvrir, Gaétan.
J'ai enlevé mes gants japonais.
Les fameux gants japonais.
C'était permis de boire de l'alcool pour les journalistes dans ce temps-là. Oui. J'imagine que c'est Gaétan Boucher.
Oui, c'est Gaétan Boucher.
Oui, on l'avait reconnu avec ses gants.
On a plein de souvenirs. Et oui, ça vaut la peine d'aller voir ce clip-là. C'est sur le site des archives de Radio-Canada pour voir, entre autres, le journaliste Gérard Potvin boire du champagne au goulot en onde. C'est parfait. Un deuxième extrait maintenant, puisque le record de 4 médailles olympiques en carrière de Gaétan Boucher a été dépassé par un autre athlète canadien après.
Je peux pas le cacher. De toute façon, tout le monde l'a vu. Je suis quelqu'un habituellement d'émotif. Puis, je pense que quand on arrive à quelque chose d'important comme ça, je l'étais probablement encore plus. Et en plus, sous l'effet du stress et toutes ces choses-là, c'était dur de se contrôler.
Qui est ce patineur qu'on a le goût de prendre dans nos bras?
Ben oui, j'allais dire Guillaume Latendresse aussi, mais j'ai un petit doute. Marc Gagnon.
Marc Gagnon, voilà.
L'homme de communication.
L'homme de communication, ça prouve que tout comme au hockey, hein, en terminant sa vie d'athlète, on en commence une autre en communication.
Et on l'a fait aussi rapidement.
Et en plus, il a acquis une très grande notoriété mondiale. On peut d'ailleurs lire sur son site Internet. Sympathique sens de l'humour, bon patineur et belle apparence font l'image de marque.
Mario,
il y a beau jeu.
Et finalement, eh bien, je m'en voudrais de ne pas mentionner Cindy Klassen, la reine canadienne des Jeux de Turin. Et elle a surpassé la marque de Marc Gagnon. Avec 6 médailles en carrière aux Jeux d'hiver.
Merci Gisèle, merci. La prochaine fois, vous nous parlez de quoi?
Il y a toujours l'intrigant Polo Zamboni.
Oui, on attend.
J'ai perdu espoir, personnellement. Là.
Je dois avouer que le curling me rend aussi très curieuse.
Bon, ben, on regarde ça, on a... Merci Gisèle.
Merci.
Je suis dans une forme dithyrambique.
Content de le savoir, mon vieux.
Parce qu'en ce moment, c'est pas une question de savoir si on est injuste envers Alak ou pas. Il y a eu scorbut, il était malade.
Ce qui me manque beaucoup, c'est, comme je dis, les Lalantos, les gens qui travaillaient au stade. À cause de cette passion-là, il n'y a pas de problème. Le jeu même est encore... Mais les Lalantos, ça.
Si j'avais pu sauter en bas du pont Jean-Jacques-Cartier, je m'en le répète.
On peut pas... Peser sur le piton, le citron tout le temps.
Il est revenu 10 matchs, pas pire, puis il était bon en arrière du banc. Mais depuis qu'il est assistant coach, on n'a pas de la marge.
Les gens vont avoir envie de nous téléphoner parce que par courriel, les gens nous appellent déjà.
Ah, ben sans aucun doute.
Il y a une façon, Daniel, de perdre.
Mais moi, j'aurais peut-être quelqu'un à conseiller aussi, là. Parce que là, il anime pas mal depuis quelques temps. Là. Moi, j'irais avec Benoît Brunet.
Pardon?
Avec toutes les super bonnes analyses qu'il fait RDS, là, moi, je le prendrais tout de suite.
Parfait.
Merci.
Au revoir.
Impossible de passer à côté de ce monument du hockey au Québec, titulaire d'une maîtrise de l'Université du Michigan. Il est l'un des deux derniers entraîneurs à porter une bague de la coupe à l'effigie du tricolore et le premier à dire les vraies affaires quand ça compte. C'est un honneur de recevoir dans notre ligne du vieux poil ce soir le célèbre Jean Perron. Oui. Monsieur Perron, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Réal, Yvan et Paul.
Bonsoir Monsieur Perron.
Vous allez bien?
Ça va très bien.
C'était une grosse semaine pour le Canadien.
Ben, moi, je trouve que c'est des trop grosses semaines. Ouais. Dernièrement, là...
Ça vous fait travailler pas mal,
Je vais dire, j'ai fouillé dans le canisse du Canadien dans les derniers temps. Là, j'ai découvert des verres, puis Guy Carbonneau n'a pas aimé ça. Et,
oui.
Là, hier, Guy Carbonneau, pas hier, mais cette semaine, Guy Carbonneau qui se fait congédier, les téléphones qui commencent à sonner à 5h30 le matin. Ça finit tard, en tout cas.
C'est peu d'heures de sommeil, hein? Parce que oui, on vous reçoit cette semaine pour que vous nous parliez des petites anecdotes qui ont marqué votre vie dans le monde du hockey, mais on peut pas passer à côté, justement, de ce congédiement-là, le congédiement de Guy Carbonneau. Vous savez d'ailleurs, M. Perron, que depuis lundi, il y a un groupe Facebook qui circule hein, pour votre retour derrière le banc du Canadien.
Ah, ben je le savais pas.
Ah ben oui, je vous le dis. Ah, oui? Et ça augmente en nombre de jour en jour.
On sent votre enthousiasme. Est-ce qu'on peut quand même vous poser la question, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ça, un jour?
Non, moi, c'est fini, je vous le dis, c'est clair, net, précis. Quand j'ai été congédié par le Canadien avec mes 103 points et en nomination pour le coach de l'année, je me suis en allé avec les Nordiques de Québec comme assistant gérant et j'ai pris la place de Ron Lapointe qui a eu le cancer. Puis, malheureusement, il est décédé. Et je n'ai jamais voulu revivre une situation semblable. J'ai trouvé ça tellement difficile pour moi et ma famille. Et moi, quand je suis arrivé, c'est ça qui m'a fait le plus de peine, c'est que mes deux garçons étaient à l'école et là, ils ont su, Perron, est-ce que vous êtes les fils de l'entraîneur du Canadien? Naturellement, l'étiquette des autres étaient bien contents de ça. Il y avait à ce moment-là, 13 et 10 ans. Et on avait eu un départ dans l'année assez difficile en 85 et je pense qu'on était 2 victoires, 4 défaites, 1 nulle. Et là, il se faisait traiter de tous les noms. Il disait « Ton père, c'est un bobon, puis il est pas correct, puis en tout cas. » Il revenait à la maison, puis là, il pleurait en disant « Pourquoi nous autres, on s'appelle Perron? Moi, j'aimerais ça changer de nom. »
Ça doit pas être facile. Ça.
J'en ai encore un, là. Vois-tu, mes deux gars sont rendus à 36 puis à 33 ans. Et il y en a un des deux... Il ne veut jamais encore marcher avec moi sur la rue.
Ben voyons.
Sérieusement.
Non, pour lui, papa, il dit, moi, il a dit ça, puis c'est un bon joueur de hockey. Lui, c'est le deuxième, c'est un bon joueur de hockey. Puis il dit, moi, papa, j'ai assez souffert que tu t'appelles Jean Perron. Moi, il dit, je veux rien savoir de ça. Moi, il dit, t'es mon père. Puis il dit, moi, que t'aies été entraîneur, puis que tu sois dans les communications. Mais vous donner juste un exemple. La dernière fois, je fais une sortie par année avec mes deux gars. Je m'en vais au Centre Bell. Ouais. J'avais invité avec ma petite fille, parce que je suis rendu grand-père. Et là c'est arrivé dans la même fin de semaine où j'avais dévoilé trois noms. Les gars qui faisaient, qui faisaient la fête, puis pas mal fort ici à Montréal. Ouais. Et mon deuxième, il dit, papa, il dit, on va me faire garocher des tomates. J'ai dit, t'es-tu malade, toi? J'ai dit, viens-t'en au Centre Bell, tu vas voir comment c'est différent de ce que tu penses.
Ouais, ouais.
Naturellement, les gens, plusieurs gens qui m'ont vu dans le corridor, M. Perron, félicitations, vous avez sorti quelque chose d'important pour nous autres. Au moins, il y en a un qui nous dit ouvertement qu'est-ce qui se passe.
Les vrais
appels. Et on est sortis de là. Ouais. Là, il a dit, ben, papa, il dit, c'était pas si pire que ça. Ben, j'ai dit, c'était très bien. Je les ai emmenés dans le salon des anciens parce que moi, je suis membre en règle des anciens du Canadien. Et là, ben, ils se sont aperçus, tu sais, que.
Ouais. C'était pas si pire que ça.
Tu sais, quand tu fais partie de la famille du Canadien, là, je vais te dire, tout le monde te supporte.
Ouais. Ça, je pense que c'est vrai, puis je pense que ça va être aussi vrai pour Guy Carbonneau. Hein.
Ah, oui. Guy Carbonneau, là, tout le monde va l'appeler, viens. Ça va prendre du temps avec qu'il remette les pieds au Centre Bell, ça.
Mais il parle la semaine prochaine. Ouais, ouais,
ouais.
Peut-être.
Mais assister à un match?
Ah, peut-être pas.
Hein? Je pense pas, ça sera pas cette année, ça, c'est certain.
Monsieur Perron, dans ce segment de l'émission qui s'appelle La ligne du vieux poêle, il y a toujours une portion où on pose des questions à l'invité, des questions qui nous sont soumises par les internautes, et on en a quelques-unes aujourd'hui pour vous. Tout d'abord, il y a Vicky qui vous demande, en lien avec les perronismes, elle veut savoir, croyez-vous que les demercismes, en faisant référence évidemment à Jacques Demers, constituent une menace sérieuse au perronisme?
Malheureusement, je fais partie du lexique aujourd'hui, demercisme, comment tu les appelles?
Oui, les péronismes et les demercismes en disant
Demercisme n'est pas encore rendu là, ça fait que je pense que j'ai encore...
Le monopole.
Le monopole. Hey, c'est quand ma petite nièce qui étudiait à l'Université du Québec à Montréal m'a dit qu'elle avait passé un cours à étudier les péronistes. Mais ben là, j'ai dit, j'ai mon voyage. Ça, je peux pas.
Mais c'est un juste retour des choses. Pour vous, vous avez commencé votre carrière à l'université, donc votre petite fille vous étudie maintenant à l'université. C'est un juste retour, non?
C'est un juste retour, mais disons que... À un moment donné, je l'ai pris mal, mais là, maintenant, je m'en fous 100 000 à l'heure.
Mais on a une autre question pour vous, celle de Walrus, parce qu'on fonctionne évidemment avec des pseudonymes, qui vous pose ceci. Mais en fait, juste avant, j'aimerais qu'on écoute un extrait.
Je comprends pas encore pourquoi Brisebois est venu se mettre le nez dans l'enfer du mal.
Le nez dans l'enfer du mal.
Ça, il faut que ça.
Alors, Walrus veut savoir, est-ce que c'est douloureux de se mettre le nez dans l'enfer du mal ou qu'est-ce que ça sent, l'enfer du mal?
Je vais te dire une chose, ça brûle. Ça brûle.
Ça doit pas faire du bien.
Alors, ici, à Montréal, ça brûle, ça chauffe à tous les jours. Puis quand ça chauffe, ça fait mal.
Ouais, ça a l'air à faire mal, en tout cas.
Alors, ça fait mal.
Puis on a une dernière question, mais en fait, avant que je poursuive avec cette question-là, quand même, continuez à nous sortir de belles expressions comme ça parce que ça pimente vraiment nos conversations. Donc, Mathieu qui veut que vous complétiez la phrase « Coacher le Canadien, c'est l'équivalent de trois petits points. »
C'est l'équivalent d'être le premier ministre du Québec ou du Canada ou des États-Unis en période de récession qu'on vit.
Tabarouette, ça ne doit pas être un job facile.
Non, c'est ça.
C'est pas un job facile.
Donc, le prochain entraîneur du Canadien, là, qu'il se le tienne pour dit, là, ce que vous venez de dire,
c'est pas
un emploi facile.
Monsieur Perron, merci énormément d'être avec nous ce soir.
Ben, ça me fait plaisir, les gars.
Eh bien, c'était une chapeau d'émission, mesdames et messieurs. Paul, quelque chose à ajouter?
Oui, ben, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de sondage cette semaine, mais que vous pouvez, à partir de maintenant et pour le reste de la saison, nous soumettre une question sportive que nous poserons ensuite à l'expert de notre choix. La façon de faire est simple, je vous le rappelle, enregistrez votre question et envoyez-nous-la par l'entremise de notre site internet au www.spornographe.com dans la section réservée à cet effet ou simplement par courriel, si vous êtes muet, c'est votre choix, à spornographe@radio-canada.ca. Et on vous rappelle également que l'auteur de la question la plus originale remportera un prix, comme par exemple la chance de venir bloguer avec nous dans la salle des nouvelles du sport de Radio-Canada et peut-être que vous courez même la chance de rencontrer Éric Fichaud par hasard dans les couloirs aux toilettes.
Merci Paul. Yvan, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on s'inquiète pour Canadien qui commencera peut-être bientôt sa saison de mini-pot et on réengage Pierre Trudel à moitié prix.
C'est bon ça. Je vous remercie Piquette. Je remercie en terminant évidemment nos collaborateurs, notre réalisateur et co-animateur Jean-Philippe Plot, son complice Jean Gagnon, sculpteur, concepteur et co-animateur Olivier Niquette, Steve Côté au montage, Sylvain Labrec à la technique, Évelyne Charuet à la recherche.
Sans oublier Jean-Philippe Vautier à l'animation et notre coach de vie, Mario. Sur ce, on reconnecte un moment donné.
Les petites annonces du Spornographe. En vedette cette semaine...
Lieu à Montréal, au centre-ville. Occasion d'effectuer plusieurs voyages, tout frais payés. 2 mois et demi de vacances l'été, parfois 4. Très bon salaire, langue de travail, l'anglais, bilinguisme souhaitable, bientôt non nécessaire, emploi d'une durée indéterminée, mais souvent limitée. Définition de tâches, motiver des millionnaires dont l'ego est aussi gros que le compte en banque. Siège de bureau confortable, mais éjectable. Qualité requise, être psychologue, motivateur, ferme à l'occasion, gros nounours parfois, bon communicateur et aimer travailler en public. Le masochisme aide également.